l'économie est-elle une science de petite vertu? Beaucoup la considèrent comme immorale, elle qui encourage la quête du profit et la satisfaction individuelle. L'économie moderne et les injonctions qui l'accompagnent sont souvent rendues responsables du creusement des inégalités dans le monde et de la dégradation de l'environnement. Cette semaine, nous allons explorer les liens entre morale et capitalisme en nous glissant demain dans le milieu de la finance, abonné au scandale. Jeudi, nous tenterons, non sans peine, de devenir des consommateurs éthiques. Mais d'abord, examinons les influences religieuses de notre imaginaire économique. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour évoquer les racines chrétiennes du capitalisme, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Sylvain Piron, historien, médiéviste, directeur d'études à l'EHESS et auteur de cet ouvrage « Généalogie de la morale économique » paru l'an dernier chez Zone Sensible. À 14h50 dans son journal de l'écho, Xavier Martinet reviendra sur la taxe mondiale sur les entreprises. L'heure du grand rapatriement fiscal a-t-elle sonné ? Bonjour Sylvain Piron.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, pourquoi vous êtes intéressé à la question de la morale en économie, puisque c'est le titre de votre ouvrage « Généalogie de la morale économique » ?
Bien, tout simplement, c'est le traumatisme subi lors de mon premier cours d'économie. La découverte, enfin plutôt le deuxième cours, on a eu un premier cours qui parlait d'Aristote et le second qui présentait Adam Smith et cette morale utilitaire. Et c'est un traumatisme, enfin, donc j'étais étudiant dans les années 80 et qui m'a tellement marqué que j'ai cherché à répondre à ce choc. Voilà.
Pourquoi un traumatisme, Sylvain Piron ?
Parce que j'entendais cette description et je me disais « nous ne sommes pas comme ça ». Les êtres humains ne sont pas comme ça. Il manque quelque chose, il manque beaucoup de choses dans le tableau de ce qu'on nous présente comme étant l'économie. Et c'était l'époque du grand déferlement du néolibéralisme. Et c'était très violent. Et j'ai choisi de m'exiler dans le Moyen-Âge et de trouver des arguments, des outils pour répondre à cela.
Et c'est en effet en observant l'économie néolibérale contemporaine que vous avez eu l'idée d'établir des liens avec la période médiévale, Sylvain Piron ?
C'est pas des liens. Je suis parti chercher autre chose, mais j'ai aussi trouvé une réponse possible dans des travaux tout à fait méconnus, des textes en latin, manuscrits du XIIIe siècle, qui contiennent des réflexions qui permettent de répondre à Adam Smith et à tout ce qui s'ensuit.
Et alors, pourquoi avoir choisi ce terme de généalogie ?
Ah ben c'est un terme tout simple. Alors, il y a dans ce livre, dans le titre, une référence à Nietzsche, donc la généalogie de la morale, qui est un des grands livres de Nietzsche, mais qui a une façon toute simple de dire que le titre veut dire plusieurs choses. Je veux d'abord dire il y a une morale dans l'économie. Adam Smith était professeur de philosophie morale. On le répète parfois en disant « Oh, c'était avant et après c'est devenu un vrai savoir positif, naturel, etc. » Or, pas du tout, ça reste une doctrine normative qui a des présupposés moraux. Donc c'est le premier sens. Et cette morale a une histoire. Et généalogie, ça veut dire faire l'histoire à l'envers. C'est-à-dire partir du présent pour remonter dans le temps. Donc c'est exactement le travail que j'ai fait.
Effectivement, vous vous êtes intéressé à Nietzsche pour appuyer votre démonstration. Voilà ce que le philosophe allemand écrit dans « Le crépuscule des idoles ».
Il y a plus d'idoles que de réalité dans le monde. Tel est le mauvais œil que je jette sur ce monde. Telle est aussi ma mauvaise oreille. Lui poser ici, pour une fois, des questions en usant du marteau. Et, peut-être, entendre en guise de réponse ce célèbre son creux qui parle d'entrailles flatulentes. Quel ravissement pour qui a encore des oreilles derrière les oreilles. Ce petit écrit est une grande déclaration de guerre. Et pour ce qui est d'ausculter des idoles, ce ne sont pas cette fois des idoles du moment, mais au contraire des idoles éternelles, que l'on frappe ici du marteau comme d'un diapason. On ne saurait trouver d'idoles plus anciennes, plus convaincues, plus boursouflées, pas non plus de plus creuses. Cela n'empêche pas qu'elles soient celles auxquelles on croit le plus. Aussi bien ne dit-on certes pas, surtout dans le cas le plus éminent, idole.
Voilà, extrait du Crépuscule des idoles, publié en 1889. Sylvain Piron, ce que Nietzsche appelait hier idole ou idéaux ascétiques, ce sont aujourd'hui les idéaux économiques.
Exactement, voilà, c'est ma conviction, c'est-à-dire que Nietzsche luttait contre les restes d'une morale chrétienne qui était incrustée dans la morale bourgeoise contre laquelle il s'élevait. Et je pense que un siècle et quelques décennies plus tard, les choses ont complètement changé. Mais il le dit ailleurs, il y a des textes qui montrent très bien qu'il perçoit aussi ce glissement possible. C'est les idéaux économiques qui nous dominent sans que nous en ayons vraiment conscience.
Des idéaux qui exercent, selon vous, une domination peut-être encore plus forte que celle des églises ?
Mais c'est-à-dire que celle des églises promettait le salut. C'est-à-dire qu'elle promettait autre chose, elle promettait une voie de sortie, elle promettait un au-delà, il fallait peut-être obéir aux prêtres, se plier au rythme, mais on avait une perspective d'un au-delà, d'un ailleurs. Alors que l'économie nous enferme dans un horizon économique. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'autre possibilité que de continuer à faire ce que nous dit cette morale économique, c'est-à-dire travailler, consommer, épargner, investir, s'endetter, consommer, travailler, produire, etc.
Ce que vous nous dites, Sylvain Piron, c'est que l'économie politique est devenue une discipline autonome à la fin du XVIIIe siècle, mais qu'en réalité, elle s'appuie sur des concepts et des questions qui ont des origines bien plus anciennes, et notamment des origines médiévales.
Oui, alors ça, c'est ça le gros de mon travail, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui décrivent comme moi cette horreur économique. Hein, l'expression était célèbre, était reprise par Vivian Forrester. Beaucoup de gens qui observent de l'extérieur trouvent ça horrible parce qu'il manque certaines dimensions. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer comment ces dimensions ont disparu au fil du temps. Et pour cela, donc mon travail, c'était de cette exhumation. Je suis pas le seul, mais disons, on est au monde pas plus de 10 personnes à travailler sur ces questions. Hein, c'est des sujets un peu difficiles qui n'intéressent pas grand monde et surtout pas les économistes qui ne regardent jamais dans ce passé lointain parce qu'il y a une, dont on peut en parler un petit peu, il y a une vraie crainte d'aborder ces questions. Mais ce que je t'ai montré, donc peut-être c'est le moment d'expliquer un peu l'ouvrage pour moi qui est de référence, hein, auquel j'ai consacré beaucoup de temps. Qui est un petit traité, en fait un cours donné par un franciscain dans un couvent à Narbonne à ses étudiants en 1293, au printemps 1293 pour être précis. Et c'est un texte tout à fait fascinant, qui a un niveau de réflexion absolument comparable à celui de l'économie moderne. C'est quelque chose de très saisissant.
Et il est rare. On parlait de Jean Olivy.
Voilà, Pierre de Jean Olivy, qui est un franciscain du Midi, né près de Béziers, mort à Narbonne. Qui a eu le malheur d'inspirer un courant franciscain un peu radical qui critiquait la richesse de l'Église, qui attendait la venue de l'Antéchrist et la lutte contre l'Antéchrist pour se débarrasser de la corruption de l'Église de son temps, ce qui fait que ses disciples ont été légèrement pourchassés, et on a une centaine d'exécutions sur le bûcher tout de même, et c'est le courant qu'on appelait aussi les fraticelles. Donc on retrouve dans Le Nom de la Rose d'Umberto Eco. Et donc lui, l'inspirateur de ce mouvement, est un auteur qui a été totalement effacé de l'histoire.
Et alors comment expliquer effectivement cette indifférence des penseurs classiques et néoclassiques à l'égard de l'œuvre de ceux qu'on appelle les scolastiques? Oui, et peut-être qu'il nous faut définir, Sylvain Piron, qui sont les scolastiques?
Alors on dit scolastique, c'est un mot qui est employé pour décrire les philosophes et théologiens qui œuvrent dans les écoles et les universités médiévales. Donc c'est le mot lié à école, qui est un terme qui est devenu très péjoratif, mais que moi, avec mon directeur de thèse Alain Bourreau et quelques autres, on a essayé de remettre en valeur comme une discipline intellectuelle de très haut niveau, qui, alors, comme le cadre est théologique, hein, la philosophie est une préparation à la théologie, on considère que tout ça c'est de la théologie, donc c'est bon à mettre à la poubelle, et ça n'intéresse que les catholiques, pour qui Thomas d'Aquin est encore une référence. Hein. Thomas d'Aquin est le grand nom du XIIIe siècle, dominicain, lecteur d'Aristote. Mais il y a dans l'œuvre de Thomas d'Aquin ou dans d'autres, dans la réflexion, toute une base philosophique qui est absolument passionnante et que l'on peut lire indépendamment de l'horizon théologique. Et dans le cas d'Olivy, c'est très frappant. C'est-à-dire qu'il fait de la philosophie quand il aborde les questions. Alors, lui, ce qu'il appelle l'économie, il appelle ça les contrats. Hein, c'est la réflexion sur les contrats. Donc c'est un traité des contrats qui pose la question, selon les termes d'Aristote, de l'éthique nicomaque d'Aristote, comment réfléchir à la justice dans les contrats. Donc c'est une question purement philosophique, où il y a très peu de théologie, quasiment pas. Et donc il y a du droit et de la philosophie pour réfléchir à cette question de la justice dans les échanges.
Et pour vous, ces idées sont au fondement de la pensée économique. Et si la tradition classique a eu tendance à les occulter, c'est notamment parce que au XVIIIe siècle, il y avait cette idée, quand l'économie politique se constitue, de refuser ce qui était considéré quoi, comme de la superstition, de l'obscurantisme religieux.
Oui, c'est le pouvoir de l'Église, tout simplement. C'est bien sûr, c'est les Lumières. C'est face à l'obscurantisme. Or, si on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que les concepts fondamentaux de l'économie ont été forgés au XIIIe siècle. Alors j'ai une grosse étude dans le livre qui concerne le concept de valeur, qui est quand même un des concepts essentiels de la pensée économique. Et si on fait l'histoire du mot, on voit que c'est un mot qui n'est pas de latin classique, mais de latin médiéval. Et on découvre que la première réflexion sur la valeur des choses, très précisément, elle apparaît dans le premier commentaire qui est produit sur l'Éthique à Nicomaque d'Aristote, sur le livre 5 consacré à la justice, par Albert le Grand, donc dominicain allemand, maître de Thomas d'Aquin, qui est le premier à poser la question. Lisant Aristote, c'est un passage d'Aristote qui est très célèbre, que tous les étudiants en économie ont vu un jour, c'est le carré de l'échange. Comment on calcule l'échange entre juste, entre un cordonnier qui produit des sandales et un maçon qui construit une maison. Comment construire l'équilibre entre les deux? Marx en a fait beaucoup discuté. Tous les grands penseurs ont essayé de comprendre ce que dit Aristote, ce qui est très compliqué. Albert le Grand était le premier occidental à le lire. Et quand il lit ce texte, alors qu'Aristote dit qu'il faut échanger des proportions égales des choses selon la diagonale, selon le rapport que l'un a au produit de l'autre, c'est extrêmement compliqué. Albert ne comprend pas le texte. Et il le transforme et il dit « la mesure juste se fait selon la valeur des choses ». Il est le premier, et c'est à partir de là qu'il y a une réflexion sur la valeur des choses. Et cette réflexion sur la valeur des choses, c'est le cœur de toute la pensée économique.
Et si c'est la pensée des scolastiques gêne les économistes du XVIIIe siècle, qu'on appelle alors philosophes, on ne les appelle pas encore économistes, c'est aussi parce que ces écrits des scolastiques, dans ces écrits, les penseurs comme Pierre Desjean-Olivier que vous avez cité, ou le jésuite Léonard Lessius, envisagent la possibilité d'un comportement économique juste, orienté par le bien commun.
C'est ça. En fait, il y a dans la pensée du XVIIIe siècle un élément très fort une pensée de l'émancipation individuelle, et on pose comme horizon principal l'intérêt individuel. Chacun cherche son intérêt, et c'est une revendication qui est liée à la revendication de liberté politique. Donc, elle est très noble. J'en critique les conséquences, je critique pas la liberté politique du tout. Mais cela a occulté, effectivement, plusieurs dimensions. Donc, si on reprend après Albert le Grand, Thomas d'Aquin à son tour discute de qu'est-ce que c'est que la valeur, mais pas de façon directe. Et Olivier, dans son traité, est le premier qui pose vraiment la question en quoi consiste la valeur des choses. Et il donne trois critères, et c'est tout à fait saisissant pour des économistes ainsi qui nous écoutent. Il dit ces critères sont la rareté, l'utilité et les préférences individuelles. Un mot employé, c'est vraiment l'agrément que chacun trouve dans une chose. Ça se traduit exactement comme ça, et c'est un concept vraiment très tardif dans l'histoire de la pensée économique, qui résout beaucoup de problèmes. Donc c'est vraiment une pensée...
Presque un précurseur de l'économie comportementale, Sylvain Piron?
Pas comportementale, mais disons, ce concept de introduire la préférence individuelle dans le raisonnement économique, c'est quelque chose qui se rapproche, disons, de la pensée marginaliste. C'est le choix à la marge qui détermine la valeur finale. Donc il y a des éléments, c'est une pensée qui résout beaucoup de difficultés auxquelles ont été confrontées les pensées qu'on appelle classiques de l'économie. Or, quand on regarde les critères qu'il met en jeu dans sa pensée, il dit certes l'intérêt individuel, la volonté de vendre cher et acheter peu cher, c'est humain, c'est inévitable, mais ce n'est pas le seul critère. Et il ajoute trois critères qui sont absolument essentiels et qui ont disparu dans l'histoire de la pensée économique, et c'est ça vraiment le cœur de l'affaire. D'une part, vous avez dit le bien commun, c'est-à-dire les acteurs individuels pensent au bien commun de la communauté à laquelle ils appartiennent, qui leur permet d'agir. Donc ils ne vont pas nouer des contrats qui seraient contraires au bien commun, à l'intérêt collectif. D'une part, il y a un élément de justice. Ces individus ont un sens de la justice et ils ne veulent pas vendre excessivement cher. Ils ont un sens des limites. Ça, c'est une idée qui vient d'Aristote, qui est restée très profonde et qui est restée très juste. Il y a des limites à ne pas dépasser, une décence à ne pas dépasser. Et troisième point, c'est la compassion à l'égard des faibles. On n'agit pas pour abuser de la faiblesse d'autrui.
Alors l'économie a-t-elle pris ses distances avec la religion ou est-elle devenue elle-même une nouvelle religion? Écoutez ce qu'écrit le philosophe Walter Benjamin dans son ouvrage justement publié, ou plutôt écrit en 1921, « Le capitalisme comme religion ». Dans le capitalisme, il faut voir une religion, c'est-à-dire que le capitalisme sert essentiellement à l'apaisement des mêmes soucis, souffrances et inquiétudes auxquelles l'édite religion apportait jadis une réponse. Apporter la preuve de cette structure religieuse du capitalisme, non seulement, comme le pense Weber, en tant que formation conditionnée par la religion, mais aussi en tant que phénomène essentiellement religieux, nous détournerait aujourd'hui encore du droit chemin en nous faisant plonger dans une polémique universelle démesurée. Nous ne pouvons resserrer le filet dans lequel nous sommes pris. Le capitalisme est une religion du culte pur, sans dogme. Le capitalisme, comme il faut le démontrer non seulement au sujet du calvinisme, mais aussi des autres courants chrétiens orthodoxes, s'est développé en Occident en parasite du christianisme, à tel point que l'histoire de celui-ci est en définitive, pour l'essentiel, l'histoire de son parasite, le capitalisme. Voilà un texte passionnant à Sylvain Piron qui a été fondateur pour vos recherches puisque vous avez cherché à comprendre ce qui a permis justement au capitalisme de proliférer comme un parasite sur le christianisme.
Oui, c'est une page absolument saisissante. Donc Benjamin écrit cela juste après avoir lu l'essai de Max Weber, le fameux texte,
l'esprit du capitalisme,
l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, dans lequel Weber essaye de montrer de quelle façon... Alors, ce qu'il appelle esprit, il ne faut pas traduire par esprit au sens strict en français. Hein, c'est le Geist, c'est la tournure mentale du capitaliste provient du calvinisme. Et Benjamin, lisant cela, a une réaction très forte et qui est très juste, qui est de dire non, ça implique l'ensemble du christianisme. C'est beaucoup plus profond que simplement ce moment ultime. Il faut refaire cette histoire complète. Mais j'insiste sur ce mot de parasite parce que ça évite beaucoup de malentendus. Il ne s'agit pas du tout de dire que le capitalisme sort directement par continuité du christianisme. Il n'y a pas de continuité directe, il y a un parasitage. Il y a quelque chose d'autre qui détourne, qui modifie, mais dont l'emprise est si forte, effectivement, que les deux histoires sont extrêmement liées.
Et en quoi est-ce qu'on peut dire que le capitalisme contemporain peut être associé à une religion, Sylvain Piron ?
Alors, il y a énormément de... C'est une question très vaste. Alors, j'ai pas traité l'ensemble des aspects dans ce livre-là. J'en ai fait un séminaire avec un ami depuis 2 ans. On fera peut-être un livre sur cette question. Mais en tout cas, c'est le chantier gigantesque, même si beaucoup de personnes ont déjà essayé d'y contribuer. Mais il me semblait que le plus simple, c'est d'employer le mot d'idéologie. C'est-à-dire que le christianisme a produit cette idéologie économique. Elle en dérive, et certains des éléments principaux, structurants, dérivent directement de dogmes chrétiens. Et ça, on peut le montrer. C'est ce que j'essaye de faire sur certains points, de montrer qu'il y a, si je peux prendre par exemple la question qui est maintenant centrale dans la pensée économique, dans le raisonnement économique, pas seulement les théoriciens, mais le raisonnement pratique, qui est la question du choix rationnel. On considère que le cœur de la question économique, c'est des individus, des agents libres, effectuent des choix rationnels par lesquels ils essayent de maximiser leur utilité. Hein, c'est vraiment la structure de base de la pensée économique. Or, ayant fait un peu d'histoire de la théologie, on se rend compte très vite que ça ressemble furieusement à la question du libre arbitre de sujets libres de choisir entre le bien et le mal qui font leur salut individuel. Libre arbitre, c'est exactement choix rationnel. C'est le même mot. Enfin, c'est le même concept dans un vocabulaire différent. Et ça veut dire que dans l'imaginaire de cette histoire, il y a à chaque fois cette notion d'un individu face à un choix. Or, l'individu chrétien, il est face au choix entre le bien et le mal pour aller au paradis. Et c'est un choix. Et pour aller au paradis, ce qu'on lui dit également, c'est qu'il faut faire le bien autour de lui, sur terre, par l'aumône. L'aumône est indispensable. Hein, prendre soin des autres est indispensable au salut individuel. Le parasitage, en quelque sorte, par le capitalisme, revient à dire, non, chacun choisit de faire son profit sans se soucier des autres. Donc, dans ce parasitage, on perd une dimension, on perd la dimension la plus importante, en réalité. Donc, il y a bien, une continuité, mais avec une déperdition de l'élément social qui est le plus important.
Vous avez dit, Sylvain Piron, que les théoriciens de l'économie moderne, les fondateurs de l'économie politique, avaient occulté la pensée scolastique. Mais alors, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'à l'origine, ce sont les théologiens eux-mêmes qui ont cherché à penser l'univers sans Dieu. Et là, vous faites une distinction importante entre naturel et surnaturel.
Oh là là, oui, c'est une histoire importante, mais...
mais extrêmement complexe, et c'est effectivement, c'est là qu'intervient saint Thomas d'Aquin.
Voilà, donc Thomas d'Aquin, parce que justement, il lit Aristote, qui est un philosophe de la nature, il essaye d'avoir une pensée philosophique du monde créé, qui est le monde naturel, tel qu'il le lit chez Aristote. Et en même temps, il lit un théologien assez complexe, qu'on appelle le pseudo-Denis l'Aéropagite, hein, qui est donc un auteur apocryphe du VIe siècle, qui lui parle du surnaturel. Alors, surnaturel, dans ce sens-là, c'est un mot qui n'a pas de sens technique, hein, qui veut dire des choses qui dépassent l'entendement, qui sont au-delà des règles habituelles. Sauf que Thomas d'Aquin structure, et après, comme Thomas deviendra le penseur de référence pour tout ce qu'on appelle la seconde scolastique, c'est-à-dire ce mouvement au XVIe, XVIIe siècle, qui élabore encore des distinctions supplémentaires dans le cadre de la contre-réforme, qui a construit vraiment l'arrière-plan de toute la philosophie moderne. On se trompe en pensant que Descartes surgit de nulle part. Non, Descartes et tous les autres surgissent de cette seconde scolastique, qui a été structurée par des distinctions qui viennent de Thomas d'Aquin, notamment, et qui séparent le monde naturel, la vision de la recherche de compréhension d'un monde naturel, et tout ce qui dépasse, tout ce qui est surnaturel, ce qui est dans l'au-delà. Sauf que la très grande différence, c'est que pour Thomas d'Aquin, les choses sont liées. L'être humain est naturellement à la recherche du surnaturel. Et c'est la dissociation des deux qui, d'un côté, apparaît aux Occidentaux comme la libération à l'égard de la religion. Mais si on prend ça les choses d'un autre point de vue, on peut penser que ces distinctions, en fait, occultent beaucoup de dimensions et font qu'on est plongé dans un monde matériel et qu'on a aucune, enfin qu'il y a une très grande difficulté occidentale à penser l'invisible, à penser les choses qui nous dépassent.
C'est pour ça que vous dites qu'il y a encore aujourd'hui des postulats chrétiens qui planent sur la science.
La science est entièrement dominée par cette distinction. Et on ne la voit pas, parce qu'elle elle nous est naturelle, précisément. Hein, on a cette vision naturelle, mais le mot de nature, c'est un mot qui a été construit par les théologiens, hein, pour séparer, justement, pour dire que Dieu n'intervient que dans des éléments surnaturels. Il a créé le monde, il a créé des lois de la nature, et les humains cherchent à comprendre les lois de la nature. Mais l'idée même de loi scientifique dérive de cette idée que Dieu a créé le monde selon des lois. Hein, il y a cette d'un Dieu législateur de la nature. Donc c'est très profond, cet inconscient de provenance théologique.
Dans votre ouvrage « Généalogie de la morale économique », vous vous êtes intéressé, Sylvain Piron, aux mythologies du travail chez Ronald Reagan et Margaret Thatcher et à leur inspiration religieuse. Je vous propose d'écouter celle qui était surnommée la Dame de Fer et puis on en parle juste après.
Peut-être serait-il préférable, monsieur le modérateur, si je commençais à parler personnellement en tant que chrétienne, tout autant que politicienne, de la façon dont je vois les choses. Récemment, dans une lecture, j'ai trouvé une phrase d'une simplicité frappante. Le christianisme est une affaire de rédemption spirituelle, non de réforme sociale. Je crois qu'en assemblant les éléments clés de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous y gagnons. Une vision de l'univers, une attitude appropriée à l'égard du travail et des principes pour façonner la vie économique et sociale. On nous dit que nous devons travailler et utiliser nos talents pour créer des richesses. L'homme qui ne veut pas travailler ne mangera pas, écrivait saint Paul aux Thessaloniciens. De fait, l'abondance plutôt que la pauvreté a une légitimité qui découle de la nature même de la création. Néanmoins, le 10e commandement, tu ne convoiteras pas, reconnaît que le fait de gagner de l'argent et posséder des biens pourrait se transformer en activité égoïste. Ce n'est pas la création de richesses qui est mauvaise, mais l'amour de l'argent pour lui-même. La dimension spirituelle intervient dans la décision de l'utilisation de cette richesse. Comment pourrions-nous répondre aux nombreux appels à l'aide, ou investir dans l'avenir, ou soutenir les merveilleux artistes et artisans dont le travail glorifie également Dieu, si nous n'avions pas d'abord travaillé dur et utilisé nos talents pour créer la richesse nécessaire.
Sylvain Piron, que vous inspire ce discours prononcé devant l'Assemblée Générale de l'Église d'Écosse, c'était le 21 mai 1988.
Une admiration sans borne, cette femme n'avait aucune limite.
Un manque de surmoi
total, et elle parle à une assemblée d'hommes et de femmes d'église calvinistes et elle leur fait la leçon. C'est prodigieux comme scène, c'est un texte alors qu'on ne connaît pas assez. Hein. Maggie se piquait de théologie. Elle est très mauvaise. Hein. Sa vision théologique, enfin, j'essaie de le montrer, est vraiment extrêmement limitée à quelques principes. Et elle répète toujours, comme je l'ai entendu dans les sermons de mon enfance, elle est restée bloquée dans le monde de son enfance. Son père était prédicateur. Son père était prédicateur, élu conservateur, juge de paix. Et elle a vécu, elle le dit parfois en sanglots, qu'elle a vécu comme une humiliation, la défaite politique et le fait que les travaillistes aient destitué son père de sa charge de juge de paix. Et mon hypothèse, c'est qu'en fait, Sa carrière politique entière vise à venger l'humiliation subie par son père en effaçant toute trace de socialisme en Grande-Bretagne.
Mais qu'est-ce que ce texte nous dit de sa morale, de ses représentations du travail ?
Donc c'est ça, c'est elle le fait sur des bases qu'elle a entendues dans la bouche de son papa et d'autres, qui est de dire l'être humain est fait pour travailler et il a une responsabilité morale, ce que je vous disais tout à l'heure sur la question du choix, hein, l'élément central, c'est on a le choix et les pauvres sont pauvres parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas fait le bon choix et c'est leur responsabilité. Donc c'est vraiment, voilà la perversion complète d'une idée du libre-arbitre qui n'est pas du tout une idée égoïste, de la transformer en justification de l'égoïsme. Et responsabilité donc d'agir pour se nourrir. Alors cette fameuse citation, hein, « Celui qui ne travaille pas ne mangera pas », citation effectivement de saint Paul de la seconde épître aux Thessaloniciens, qui est une phrase redoutable. Il y a un petit livre très intéressant sur la question de Régis Burnet qui montre bien tous les usages qui ont été faits, et notamment la récupération de cette phrase dans le communisme, parce que cette phrase figure dans la constitution de l'Union soviétique. C'est une phrase qui est quasiment un des fondements du communisme également. C'est là un des points communs. C'est pour ça que je parle d'idéologie économique qui englobe aussi bien le néolibéralisme, enfin le libéralisme et le néolibéralisme, que l'idéologie marxiste qui est communiste, qui est fondamentalement économiste à la base. Donc cette idée,
ils se rejoignent sur cette place du travail en particulier. Ah,
totalement. C'est le but de la vie est de travailler. Et qui ne travaille pas ne mange pas. Qui ne travaille pas n'est pas vraiment un être humain digne d'être membre d'une société humaine.
Et la question que vous vous êtes posée, justement, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu, en 1980, avec Margaret Thatcher, mais aussi avec Ronald Reagan, un retour de l'éthique protestante du travail et de la responsabilité individuelle, comme au XVIIIe siècle ?
Voilà. Alors, c'est plus complexe que ça. En fait, moi, donc, je ne suis pas historien du XXe siècle. Je ne prétends pas faire une histoire de ce regain néolibéral. J'observe simplement une résurgence, en même temps qu'il y a une révolution intellectuelle qui veut liquider le rôle de l'État-providence, qu'il y a des argumentaires théologiques qui reviennent au premier plan. Et comme Thatcher est sans filtre, on voit chez elle, de façon tout à fait transparente, Reagan n'est pas du tout un intellectuel, il est beaucoup moins intéressant. Mais c'est aussi un peu comparable, mais c'est beaucoup moins amusant aussi à lire et à voir. Mais chez elle, on lit vraiment un imaginaire théologique qui dérive directement d'idées du XVIIIe siècle calviniste, c'est vraiment, ou d'autres sectes protestantes.
Et alors, quelles conséquences de cette conception du travail comme vertu, qui donc est une idée qui a refait surface avec beaucoup de puissance avec la révolution conservatrice des années 80?
Oui, puis on entend après chez Sarkozy, hein, travailler plus pour gagner plus, comme si. Alors que justement, là, c'est le point de clivage peut-être du socialisme du second XXe siècle, qui était la réduction du temps de travail comme un horizon de libération, d'émancipation. Mais ce qu'on voit là, si vous voulez, c'est une sorte de couverture de quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc c'est pas du tout la raison d'être de ce tournant. Mais ça montre bien l'imaginaire, hein, qui porte et qui dit « il faut travailler pour travailler ». Peu importe le sens du travail. Et ça, c'est, je pense, la grande question qu'on doit se poser aujourd'hui sur le travail, c'est réfléchir à travailler, oui, mais pourquoi ? Dans quel sens ? Dans quel but ?
Et c'est dans ce sens que vous proposez, justement, de s'émanciper de ces représentations, et notamment de celle du travail. On continue à en parler dans un instant.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute d'Ève, il n'a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventeur qui l'a volée, c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit, attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève. Si Adam rentrait crevé, elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée.
Et c'est peut-être aussi la faute à Ève si l'économie est devenue néolibérale. Voilà ce que vous pourriez ajouter à la chanson d'Anne Sylvestre. Sylvain Piron, vous êtes notre invité aujourd'hui sur France Culture dans Entendez-vous l'écho pour parler des inspirations chrétiennes du capitalisme. Je rappelle que vous êtes historien médiéviste. Alors avant d'écouter Anne Sylvestre, nous parlions de cette conception chrétienne du travail comme vertu. Pour vous, Sylvain Piron, il s'agit de s'émanciper de cette représentation et vous invitez dans votre livre à retrouver le sens du travail hors du capitalisme.
Oui, c'est-à-dire que mon travail s'arrête à un moment assez précis. C'est-à-dire que j'apporte des éléments historiques pour reposer les questions et pour montrer, pour aider à se libérer de certains mythes que nous ne voyons pas. C'est juste... donc je ne vais pas faire moi une théorie aujourd'hui du travail, de ce que serait le sens du travail. Il y a beaucoup de sociologues qui travaillent sur ce genre de questions, qui étudient ce genre de questions.
Mais se libérer des mythes, ça revient aussi à revenir sur l'étymologie des mots, et notamment l'étymologie du mot travail. Vous expliquez qu'il n'y a pas en réalité de rapport direct à la souffrance ou à la torture dans l'étymologie du mot travail.
C'est un tout petit peu différent. C'est que c'est une des étymologies les plus célèbres. Tout le monde sait que le mot travail dériverait d'un mot latin qui serait le tripalium, instrument de torture, composé de trois pieux, un tripalium. Or, le tripalium n'a jamais existé, on n'en a jamais vu, c'est un mot qui n'existe même pas. Et donc j'ai juste fait le petit travail qui est assez simple, hein, de remonter dans les dictionnaires et de voir les occurrences, les seuls emplois du mot. Il y a trois emplois du mot à l'époque mérovingienne, et c'est un mot qui s'écrit généralement « trebalium » ou « tra ». Palium ou trabalium. Et on comprend très vite que ce mot dérive du latin traps, qui a donné le français travé, c'est-à-dire la poutre. Et donc c'est une construction en bois. Et quand on lit les textes, il s'agit d'une construction en bois, non pas un instrument de torture, mais le lieu sur lequel on fouette les condamnés. Bon, c'est pas joyeux non plus, hein, mais c'est juste, c'est un petit peu différent. C'est pas un... Et surtout, ce qui compte, c'est que c'est pas l'étymologie seule, c'est l'usage, les raisons pour lesquelles le mot s'est imposé. Et le mot s'est imposé parce que le verbe dominant au Moyen-Âge était le verbe ouvrer. On disait ouvrer en ancien français. Et à la Renaissance, au XVIe siècle, la conjugaison du verbe ouvrer, devenu ouvrer, ne se distinguait plus de celle du verbe ouvrir. J'ouvre. C'est le même mot. Donc c'est pour se distinguer qu'on a utilisé le verbe travailler, qui arrivait tardivement. Et le travail dérive du, enfin, l'usage du mot travail, le mot est ancien, mais son usage dominant est récent et date de cet usage du verbe travailler.
Et vous rappelez que c'est Adam Smith qui a formulé le concept abstrait de travail.
Oui, alors c'est l'histoire là, c'est compliqué à raconter en deux mots. Adam Smith est un des premiers qui essaye de dire la valeur, c'est le travail. La source de la valeur, c'est le travail. Contre les physiocrates à l'époque en France qui considèrent que la source de la valeur, c'est la terre. C'est l'agriculture qui est seule à produire de la valeur. Alors que lui veut montrer que non, c'est le travail sous différentes formes, y compris le travail notamment dans les manufactures. Mais la vraie modernité du mot travail, ce sont les ingénieurs de l'époque, de la Révolution française et de l'époque napoléonienne, physiciens et ingénieurs, qui inventent le concept physique de travail. On a tous fait ça au lycée, le concept de le travail, hein, la force. Et ce travail-là, c'est le même sens, c'est le même mot, c'est la force d'une appliquée dans une machine, enfin parfois la force humaine ou la force animale appliquée à une machine pour transformer quelque chose. Il y a vraiment un lien très précis entre le travail physique et le travail économique. C'est la même chose. Donc c'est ce moment-là, 1800. Donc c'est pas seulement Smith. Smith c'est un petit peu avant, mais c'est vraiment une réflexion d'ensemble sur la transformation par les machines. Et c'est vraiment le concept central de l'industrialisation de cette époque.
Alors pour bien comprendre comment nous avons hérité de ces représentations du travail, Sylvain Piron, il faut revenir à la Genèse. Après qu'Adam et Ève ont mangé la pomme, la malédiction divine s'abat sur eux et voilà ce que Dieu dit. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme... puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Sylvain Piron, dans la Genèse, c'est aux hommes qu'incombe la charge du travail, selon la malédiction divine. Alors comment expliquer que les femmes soient elles aussi associées dans les représentations à ce devoir de travailler?
Oui, c'est un point dans l'iconographie médiévale. On représente Ève en train de filer la laine pendant qu'Adam bêche la terre. Et c'est un point qui n'avait jamais été vraiment étudié par les historiens de l'art parce que ça paraissait tellement évident. Or, il m'a semblé intéressant de reprendre cette question pour voir à partir de quand et comment cette image se forme. Et elle se forme, elle n'est pas du tout immédiate, puisque les représentations antiques montrent Ève en train d'allaiter les enfants. C'est le symbole, donc, ce qu'on a entendu, la malédiction de la douleur de l'accouchement qui est figurée par le fait de porter d'allaiter et de porter les enfants, d'un côté, ou bien elle s'afflige de son péché, puisque c'est elle, comme Diane Sylvestre, qui est responsable, tout est de sa faute. Donc on la voit affligée du péché. Or, on voit apparaître dans certaines images, à partir du XIe siècle, cette image. Alors, il y a deux images de travail. L'une, les deux, Adam et Ève, bêchent la terre dans une stricte égalité. Ils sont habillés de la même façon, ils travaillent avec les mêmes instruments. C'est très très intéressant de voir ça au XIe, XIIe siècle. Mais l'image dominante devient celle du filage de la laine. Et qui est très intéressante, c'est la couverture du livre, de voir que c'est la quenouille avec un long manche passé dans la ceinture qui est en réalité l'image de la femme au travail. Qu'on nous connaît très peu parce qu'elle n'est jamais représentée. C'est la seule façon de la représenter, c'est de montrer Ève en train de filer la laine avec sa grande quenouille et donc deux mains pour filer pendant qu'Adam bêche la terre.
Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le travail n'est pas forcément associé au péché dans le christianisme, dans la Bible, dans le sens où avant même la faute d'Ève, Adam est censé travailler la terre.
C'est ça. Alors ça, c'est un autre verset de la Genèse que j'ai également étudié dans le livre. Un verset qui est moins connu, qui est le fait que Dieu, quand il crée Adam, le place dans le jardin pour qu'il le garde et le travaille. Et donc là aussi, j'ai fait l'enquête sur dans la très longue durée, en remontant du 1er au 20e siècle, pour voir les transformations du sens de cette image. Et les sens anciens montrent une compréhension allégorique. Il ne s'agit pas du tout d'un vrai jardin, ni d'un vrai travail. Tout cela, ce sont des allégories qui représentent la création de l'âme, la création du corps, la création des vertus, la tentation. Mais on n'a pas du tout l'idée d'un travail physique. C'est saint Augustin qui est le premier à émettre l'hypothèse, sans trancher vraiment pour. Et c'est clairement à partir de la fin du XIVe siècle, soit après la peste noire, que l'interprétation dominante est de dire oui, c'est un vrai travail, mais un travail agréable. La seule différence, c'est qu'après la chute, après l'expulsion du jardin, Adam travaille dans la douleur. C'est la terre qui est rendue mauvaise, on l'a bien entendu. Hein. C'est la terre qui est maudite, c'est pas Adam. C'est la terre devient hostile à l'action humaine.
Et donc le travail est une souffrance.
Le travail dans la souffrance, alors qu'auparavant c'était un travail dans la joie, de la découverte de la beauté du monde, de la beauté de la création. Mais ce travail, donc le positif, devient la condition humaine. Et c'est une vision qui est très forte chez Luther. Et c'est pour ça que donc c'est l'arrière-plan de Thatcher est la compréhension protestante. Puisque pour les protestants, on ne fait pas son salut par les bonnes œuvres, par les bonnes actions. Hein, donc il faut trouver une autre motivation au travail. C'est pas un travail de pénitence, c'est pas un travail pour autrui. C'est un travail pour soi parce que l'être humain est fait pour travailler d'après ce verset-là de la Bible.
Il y a aussi, c'est peut-être ainsi qu'on peut expliquer, Sylvain Piron, le fait qu'on ait ainsi séparé le travail manuel et le travail spirituel, alors que ce que vous trouvez dans vos travaux, dans vos recherches, c'est au contraire une synthèse de ces deux travaux.
Alors oui, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que donc c'est la proposition d'Augustin qui après est développée et reprise par les théologiens, c'est de dire que dans ce travail du paradisiaque, Adam découvre les forces de la nature et découvre l'intelligence humaine par lequel l'être humain peut transformer le monde. Et dans les deux cas, il découvre la providence divine qui a créé la nature florissante et qui lui a donné l'intelligence. Donc ces deux dimensions-là sont liées. Et c'est très intéressant d'observer comment ce travail-là est un modèle qui est très important en Angleterre au XVIIe siècle, dans ce qu'on appelle la révolution scientifique anglaise. Il y a une vraie volonté de retour à la situation d'Adam, au savoir et à la connaissance qu'Adam pouvait avoir du monde et à la façon dont Adam pouvait transformer le monde. Donc véritablement, cet Adam-là est un Adam qui est une sorte de prototype du savant anglais du XVIIe siècle.
Alors, il n'y a pas que le travail qui soit influencé par la pensée chrétienne. D'autres concepts économiques peuvent être explorés à cet égard. C'est le cas du temps. Écoutez ce qu'écrivait Benjamin Franklin à un jeune entrepreneur en 1748.
Souviens-toi que le temps, c'est de l'argent. Celui qui, pouvant gagner 10 shillings par jour en travaillant, se promène ou reste dans sa chambre à paresser la moitié du temps, bien que ses plaisirs, que sa paresse ne lui coûte que 6 pence, celui-là ne doit pas se borner à compter cette seule dépense. Il a dépensé en outre, jeté plutôt, 5 autres shillings. Souviens-toi que le crédit, c'est de l'argent. Si quelqu'un laisse son argent entre mes mains, alors qu'il lui est dû, il me fait présent de l'intérêt ou encore de tout ce que je puis faire de son argent pendant ce temps. Ce qui peut s'élever à un montant considérable si je jouis de beaucoup de crédit et que j'en fasse bon usage. Souviens-toi que l'argent est, par nature, générateur et prolifique. L'argent engendre l'argent, ses rejetons peuvent en engendrer davantage et ainsi de suite. 5 shillings qui travaillent en font 6, puis se transforment en 7 shillings 3 pence, etc., jusqu'à devenir 100 livres sterling. Plus il y a de shillings, plus grand est le produit chaque fois, si bien que le produit croît de plus en plus vite. Celui qui tue une truie en anéantit la descendance jusqu'à la 1000e génération. Celui qui assassine une pièce de 5 shillings détruit tout ce qu'elle aurait pu produire, des monceaux de livres sterling.
Le temps, c'est de l'argent. En quoi le christianisme a-t-il influencé notre rapport au temps et à son organisation, Sylvain Piron ?
Alors ça, donc, un autre de mes maîtres, Jacques Le Goff, a écrit des pages sublimes sur ces questions-là, mais ça nous prendrait plusieurs heures pour essayer d'en discuter. Non, la question qui importe ici, c'est la question d'occuper son temps. C'est la nécessité d'être efficace, d'agir proprement, sans perdre de temps. L'oisiveté était un des péchés les pires au Moyen-Âge, dans la bouche des prédicateurs. Et donc j'ai essayé de remonter dans un chapitre du livre sur cette question de l'occupation du temps à l'origine, qui est l'activité des pères du désert, donc qui sont les premiers moines au 4e siècle en Égypte, puis en Syrie, en Cappadoce, mais qui ont une activité manuelle très intense. Dans tous les récits de leur vie qu'on a, le récit de leurs paroles, de leurs actes, on voit des ermites, des moines, occupés à tresser des paniers d'osier toute la journée, sans une utilité immédiate. Alors il y a une utilité, il faut subvenir à ses besoins, il faut pouvoir vendre pour donner aux pauvres. L'aumône est toujours la chose essentielle pour tout le monde, y compris pour les moines de cette époque. Mais il y a quelque chose de plus, il y a le besoin d'être occupé en permanence à quelque chose. Et comme le dit Saint Jérôme, qui est un latin qui fréquente ces moines et qui traduit leurs textes pour les latins, on est vers 400, Jérôme dit, donnant un conseil à un jeune homme qui voudrait devenir moine, il lui dit « Trouve-toi quelque chose à faire pour que le diable te trouve toujours occupé. » C'est résister aux tentations, c'est les tentations d'Antoine dans le désert typiquement. C'est s'occuper aussi pour ne pas céder à l'impatience de la fin des temps. Ça, c'est un conseil que donne Saint Paul dans la fameuse épître aux Thessaloniciens dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a des éléments chrétiens très forts qui disent « Oui, il faut s'occuper à quelque chose et être actif et transformer. » Après, il y a d'autres éléments qui interviennent pour compliquer encore cette image, mais ça reste un fond très puissant de dire le chrétien doit être en permanence occupé à quelque chose.
Allez, pour la dernière partie de cette émission, on va entendre un autre de vos maîtres à penser, le philosophe Cornelius Castoriadis.
Il y a actuellement une idéologie à peu près dominante, mais le plus étonnant, c'est qu'elle est prise tellement auprès des gens qui autrefois avaient appris un certain nombre de choses, ils semblent l'avoir tout à fait oublié, qui consiste à dire à peu près l'histoire politique de l'humanité est terminée. Nous avons trouvé la société parfaite. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais c'est tout ce que l'humanité peut donner. Alors, si on fait la liste de tout ce que l'humanité peut donner, avec la situation actuelle, avec l'Angleterre de Thatcher, avec les ventes d'armes à l'Iran, avec le Iran Gate, avec la mort par inanition d'une énorme partie du tiers-monde, avec la rivalité entre les deux grands, quels que soient les accords qui passent, etc., etc., qui peut d'un moment à un autre déboucher à une catastrophe, avec les problèmes écologiques fantastiques qui existent. Bon, on s'aperçoit que cette position est absolument inacceptable. C'est qu'il nous faut autre chose. Et cette autre chose ne pourra être à la mesure des problèmes qui se posent que si effectivement il y a un changement des attitudes de la population, du peuple, des gens, de vous, de moi, des autres. C'est-à-dire qu'ils comprendront qu'il y a quelque chose qui s'appelle la chose publique, et cette chose publique n'est pas ce monstre qui est dans un coin. C'est nos affaires.
Changer nos attitudes, nous dit le philosophe Cornelius Castoriadis. Pour vous aussi, Sylvain Piron, il faut changer de paradigme en économie et apprendre peut-être à faire prévaloir le bien commun, à la fois écologique et social, sur les satisfactions individuelles immédiates.
Oui, et là, nous n'avons plus le choix. Castoriadis l'a parlé dans les années 80. Il dit déjà ce genre de choses dans les années 70. Il a des pages très fortes sur la catastrophe écologique qui s'annonce dès le début des années 70. Et oui, et le concept central qu'il développe, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire que nous vivons pas juste dans une société matérielle, nous vivons dans des sociétés qui sont constituées autour de significations imaginaires, d'une institution imaginaire de la société. Et ce qu'il dit tout simplement, c'est que cet imaginaire économique est une aberration, aboutit à des contradictions, des destructions. Il est invivable. Mais nous avons vécu encore pendant quelques décennies sur ce modèle-là, et la situation est devenue de pire en pire, de plus en plus invivable. Donc ce que je propose, vraiment en reprenant la même ligne de pensée, c'est des phrases que je reprends de Castoriadis, hein, dévoiler les limites pour nous en libérer, pour essayer d'imaginer autre chose, de constituer un autre imaginaire, qui remettrait l'économie à sa place. C'est aussi simple que ça.
Et le changement peut passer par une réintégration dans nos relations économiques de toute l'étendue de la gamme des sentiments moraux. C'est ce que vous proposez, peut-être en relisant l'autre Adam Smith, l'Adam Smith du traité des sentiments moraux.
C'est pas exactement ça, non, je crois. Je crois pas trop à cet Adam Smith-là non plus. Je
pense qu'il faut...
Non, je suis désolé, il faut vraiment...
Disqualifions Adam Smith
non,
en direct.
Non, il a des... Bon, j'ai essayé de le lire de près, et oui, on peut en sauver quelque chose, mais je pense pas que ce soit le bon modèle, et il faut vraiment changer complètement d'imaginaire, et notamment d'un imaginaire fondé sur l'individu, l'individualisme, et penser des collectivités solidaires, hein, penser que nous ne sommes pas séparés, nous sommes tous comme plus ou moins les avatars d'un seul être humain qui est solidaire, et si l'un de nous tombe, tout le monde est affaibli. Donc penser comme ça, et penser notre rapport aussi à la planète, à la biosphère, dans les mêmes terme que nous sommes solidaires de tout ce qui arrive aux animaux, aux glaciers, aux lacs, aux fleuves qui meurent. Donc non, c'est cette solidarité globale qu'il faut arriver à penser et à subordonner l'économie à d'autres priorités. C'est vraiment reposer la question du sens. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quel but? Alors que l'économie est une... met en avant les moyens. C'est un savoir de l'utile, de l'utilité. Or l'utile, donc, en fait je suis aristotélicien à la base comme Castoriadis, l'utile c'est ce qui sert à quelque chose d'autre, ce qui sert à une finalité. Et la domination de la pensée économique, c'est la domination des moyens sur les fins, ce qui est une absurdité complète. Donc la solution, c'est mettre en avant des finalités, arriver à définir des finalités et que l'économie soit au service d'autres finalités.
Déconstruire les mythes, ça passe aussi par un travail sur le langage. Vous revenez notamment sur le mot « industrie », Sylvain Piron. Pourquoi est-ce que ce mot est important dans votre travail ?
Oh, c'est un petit chapitre, hein, il n'est pas central, mais c'est intéressant de suivre l'histoire de ce mot « industrie » et de montrer comment un terme qui en latin signifie « industria », qui est un mot très riche, qui a beaucoup de significations, mais qui notamment signifie une capacité d'invention, d'imagination, et un savoir-faire pratique, et une capacité à bien faire ce qu'on est en train de faire. Donc c'est beaucoup d'éléments à la fois, ça peut s'appliquer à toutes sortes d'activités, et c'est un mot qui a perdu. Encore une fois, je raconte le contraire d'un progrès, je raconte des déperditions. Et donc là, la déperdition, c'est de passer à l'industrie comme l'action des machines, de passer de l'invention de machines à l'activité même des machines. Et le tournant, c'est le même, c'est 1800.
Cela passe aussi par le fait, peut-être, de relire les scolastiques que vous dites qu'ils méritent d'être considérés comme les ancêtres de toute science sociale, carrément, Sylvain Piron.
Bien entendu, oui. Excuse-moi, oui, c'est-à-dire que c'est une pensée, parce qu'elle est fondée sur... Enfin, c'est un croisement entre beaucoup d'éléments, de droit romain, d'Aristote, de théologie, et c'est une pensée qui pose la question de qu'est-ce que la société... Enfin, qu'est-ce que la collectivité, la communauté, les relations humaines, les vertus dans les relations humaines, etc. Il y a un mode de pensée extrêmement riche, oui, d'où dérive, et ça je ne suis pas le seul à le dire, la sociologie par un certain côté, l'économie par un autre.
Alors, un dernier mot de conclusion, Sylvain Piron, on arrive au terme de cette passionnante discussion. Dans le système capitaliste qui est le nôtre, que vous ne souhaitez pas abolir, vous êtes très clair là-dessus, vous appelez à retrouver finalement une spiritualité aujourd'hui hors de la religion.
Alors là aussi, c'est un chantier gigantesque, mais qui est passionnant. C'est-à-dire, la France a un problème avec la religion. La France est restée un pays anticlérical. Donc la France sortira vraiment de la religion quand elle sortira de l'anticléricalisme, qui pour l'instant l'empêche dans le débat public de poser ces questions, qui est le rapport à l'invisible. Et pour moi, l'écologie implique de reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres du monde, qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas et que les humains auraient intérêt à être les plus humbles possibles pour respecter cette planète, y compris en tenant compte de la présence d'entités invisibles que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas, mais qui sont attestées par plein de voies différentes. Alors, on pourrait avoir une approche non dogmatique de l'invisible. C'est juste essayer d'être plus curieux, d'observer. Mais je pense que beaucoup de gens parmi les auditeurs fréquentent ou s'intéressent à l'astrologie, vont voir des médiums, vont voir différentes formes de médecine non conventionnelles. Donc, en réalité, je pense que les Français sont prêts à ce genre de démarche, mais sauf qu'elle n'a pas encore une légitimité dans l'espace public. Donc, c'est ça la question là qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. C'est comment poser plus tranquillement une question de l'invisible, du sens, tout simplement des valeurs. Quand je parlais de la question des finalités, c'est vrai exactement ça. Comment reproposer du spirituel qui ne soit pas dogmatique, qui soit laissé à la liberté de chacun, enfin de collectivité, mais simplement pour donner un sens à nos activités, savoir qu'est-ce que nous cherchons. Et la finalité de la vie humaine n'est peut-être pas de consommer toujours plus, c'est peut-être de devenir plus sage, plus respectueux du monde.
Rechercher du spirituel non dogmatique, on retient cela. Sylvain Piron, un grand merci de nous avoir emmenés dans ce voyage médiéval aux origines du capitalisme. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui a enthousiasmé toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Généalogie de la morale économique. Et il est publié aux éditions Zone Sensible. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Tout autre sujet, loin de la spiritualité, un impôt mondial minimal de 15% sur les entreprises. Après une nouvelle proposition américaine vendredi, bientôt un accord pour révolutionner la fiscalité internationale.
En tout cas, un taux d'au moins 15%, disent les Américains, sur les bénéfices des multinationales. Ce serait le bouleversement le plus important dans la fiscalité des entreprises depuis un siècle. S'enthousiasme le Financial Times qui révèle l'information dimanche. Les membres du G7, les 7 pays parmi les plus riches de la planète, pourraient se mettre d'accord dès vendredi prochain sur cet impôt minimal mondial sur les entreprises. Depuis les années 80, le taux moyen d'imposition sur les sociétés dans le monde est passé de 45 à 20%. Miné par le dumping et l'évitement fiscal. Et le nouveau principe serait assez simple. L'entreprise qui délocaliserait ses profits devrait reverser à son hôte national la différence entre ce qu'elle paye et le seuil minimal. Autrement dit, le dumping n'aurait plus d'intérêt. Il serait neutralisé. Toute proportion gardée, Tiffaine, cet impôt mondial des entreprises jouerait un peu comme pour le prix unique du livre en France. Jake Sullivan, secrétaire d'État à la sécurité, triomphe dans les mêmes termes que Janet Yellen il y a un mois. Voici ce que c'est d'entraîner le monde à cesser la course au moins-disant.
Il y aurait donc maintenant une convergence des luttes entre Américains et Européens pour un nouveau système fiscal international ?
Alors jusqu'ici, l'Europe menaçait d'une taxe GAFA, vous savez, cette taxe sur les services numériques prévue pour 2021. Certains pays, dont la France, l'ont adoptée, mais sa généralisation à l'OCDE avait échoué en octobre dernier, les États-Unis refusant une taxe visant spécifiquement ces champions. Et puis l'écart entre les 21% du taux unique mondial proposé par les Américains et les 12,5% proposés par la France et l'Allemagne est maintenant réduit. Pour le Financial Times encore, ce nouveau seuil de 15% proposé à l'OCDE et donc le compromis idéal, la poire en deux si vous voulez, le taux pratiqué actuellement en Irlande. Mais le débat n'est pas terminé. Dans le journal belge Le Vif, la Fédération des entreprises Business Europe considère encore les 21%, je la cite, ni souhaitable ni réaliste.
Et la proposition suscite une certaine réserve en Europe, Xavier ?
Oui, avec des taux qui varient de 30% à 9%, le marché commun est quand même une terre de dumping. Les ministres des Finances allemands et italiens saluent l'initiative sans se prononcer sur les chiffres. Les Irlandais restent réservés, disent-ils, craignant de perdre à terme 2 milliards d'euros de recettes fiscales par an. Quant à Bruno Le Maire, nous pouvons vivre avec 15%, dit-il, mais il insiste sur la taxe numérique mondiale. Et ensuite, le dispositif anti-évasion américain assez parfait suscite des soupçons. Un inquiétant recul sous la pression du capital national de Joe Biden, déplore Romaric Godin dans Mediapart, moins que le taux moyen de fiscalité sur les entreprises numériques aux États-Unis qui stagne à 16% depuis 10 ans, précise-t-il, et moins aussi que le taux minimal de 25% proposé par Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, les deux économistes, pour stopper la course au moins 10 ans fiscal, écrivait-il. Et puis le principe même d'un taux mondial est une erreur, estime dans La Tribune, cette fois Radu Vranceanu et Marc Guillot de l'ESSEC, se méfiant d'une normalisation fiscale décidée par un président américain en quête d'argent, écrivent-ils, et invitant à se concentrer sur la lutte contre l'évitement et l'optimisation fiscale plutôt que de suivre ce procuste de la fiscalité mondiale, du nom de ce personnage mythologique qui tranchait ou écartelait les membres de ses hôtes pour les faire coïncider à la taille de son lit.
Alors est-on à l'aube du grand rapatriement fiscal ?
Eh bien, dans le détail, la réforme fiscale de l'OCDE reste quand même un peu ambiguë avec deux piliers tordus. Un, la redistribution d'une taxe sur les 100 plus gros chiffres d'affaires selon le lieu réel de production, quelle que soit l'entreprise. Là, ça va de la pharmacie à l'automobile ou bien même le luxe. LVMH est explicitement cité selon toute l'Europe. Le second, c'est ce taux minimal pour toutes les entreprises, mais dont on ne sait pas s'il inclura ou non les niches fiscales. Et puis, ne nous trompons pas de combat, avertissent dans Le Monde l'économiste Jean Pisani Ferry et 6 de ses collègues. Cibler 100 entreprises aussi grandes soient-elles rapporte beaucoup moins que de s'attaquer directement aux paradis fiscaux, y compris les paradis européens, écrivent-ils. Seul le taux minimal est selon eux capable d'inverser la course au moins 10 ans fiscal, neutraliser le dumping et sécuriser les recettes sans compromettre la compétitivité nationale. Bref, le consensus se fera sans doute à la baisse, un taux très bas et une base très large, c'est ce que prédisait début mai le directeur de l'OCDE, Pascal Saint-Amand.
Donc ce n'est pas encore l'arrêt de mort des multinationales et des superprofits.
Non, sans doute pas, Tiffaine. Pour l'instant, en tout cas au jeu de la bataille judiciaire face à la Commission européenne, les plus grosses entreprises ou les moins européennes gagnent. Amazon EU a fait les gros titres récemment parce qu'elle a réussi à ne payer aucun impôt sur ses 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et même a déclaré une perte d'1,2 milliard d'euros via le Luxembourg. Mais d'autres dangers menacent. Les 500 entreprises géantes super performantes qui réalisent aujourd'hui la moitié des profits, écrit dans Les Échos le spécialiste du sujet à l'École des mines François Lévesque. C'est une démondialisation, écrit-il, des échanges sur fond de nouvelles courses à l'indépendance et de nationalisme technologique. Le monde se fragmente et par conséquent se rétrécit, celui des entreprises multinationales, annonce-t-il, mais c'est presque un autre sujet, non ?
Absolument, Xavier Martinet, merci beaucoup. Votre journal de l'écho est à retrouver comme toujours sur franceculture.fr et puis sur l'application Radio France. Grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade, Manon Prissé et Margot Boult, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi. Demain, nous poursuivons notre semaine immorale en nous glissant dans le milieu de la finance en compagnie du journaliste Édouard Perrin et de l'historien Patrice Bobo. D'ici là, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.